Vous écoutez un podcast Top Music.
Premier sur la région.
Top Music.
Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils. Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences. En musique et en anecdotes, un podcast à emporter partout.
Toutes les expériences sont bonnes à prendre, même s'il y a un échec derrière. Parce qu'on apprend de ses échecs et parce qu'on se relève encore plus fort, avec encore une idée encore plus précise de ce qu'on veut, de ce qu'on veut pas. Néanmoins, j'étais assez maso pour tenter des concours et me mettre dans cette situation où on flippe, où on est mal, où on se dit que toute sa vie, même si c'est complètement faux, se joue là. Je crois que j'aime la difficulté et j'aime le défi. Et qu'en fait, ce qui m'anime, c'est aussi cette idée de partir vers l'inconnu et quitte à me brûler les ailes.
Leïla Martin, blogueuse culinaire à la culture franco-marocaine, monte sur le podium. Elle nous raconte sa passion pour la cuisine et l'écriture, son Alsace sans frontières, ses recettes du bonheur dont la liberté est l'ingrédient majeur. Cette femme magnifique ose tout. Autodidacte, elle échoue au concours de Masterchef et de Top Chef. Pourtant, ses 90 000 followers continuent de se régaler de ses petits plats. La convivialité, le partage lui donnent des ailes. Cette chef qui a le goût d'entreprendre nous ouvre son palais. Et pour une fois, c'est moi qui vais la cuisiner. Merci Leïla de me recevoir dans votre cuisine qui est magnifique.
Merci pour cette visite.
Alors Leïla, racontez-moi, c'est quoi votre quotidien aujourd'hui de blogueuse culinaire? Qu'est-ce que c'est qu'une blogueuse culinaire?
Alors, être blogueuse, c'est un grand mot qui cache beaucoup, beaucoup de choses. C'est quand on a un blog, on essaye de l'alimenter au maximum. Donc moi, j'ai choisi de l'orienter sur ma passion qui est la cuisine et la cuisine alsacienne. Donc je passe beaucoup de temps à imaginer des recettes, à les mettre en œuvre, à les prendre en photo. Bien sûr, je goûte tout ça, j'essaye de m'améliorer, j'expérimente. Voilà, c'est un petit laboratoire d'expérimentation, de goût, de convivialité aussi, parce que j'en fais profiter mon entourage, parce que mon blog est aussi une vitrine de compétences. Donc, je ne me consacre pas qu'au blog, mais j'ai d'autres activités à côté. Par exemple, je tiens une chronique culinaire sur France 3 Alsace. J'ai également des partenariats avec des entreprises qui me confient un peu de communication parce que c'est mon premier métier. Je fais des ateliers culinaires. Enfin, il y a un tas d'activités qui sont autour de la communication et la gourmandise. Et c'est ça mon quotidien.
Votre envie, c'est le partage, c'est ça, c'est partager ce que vous faites. Parce que le blog, c'est un peu une fenêtre ouverte sur l'extérieur.
C'est vrai. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup cuisiné toute seule. Sans forcément partager avec un grand public,
ouais.
Mais j'ai toujours aimé, mon moteur principal, ça a toujours été de faire profiter les gens, de les réunir, d'organiser des moments de convivialité, et ça je le faisais, même étudiante, quand j'avais un tout petit studio, j'arrivais quand même à faire la popote et à réunir des amis, c'est vraiment le principal moteur, on va dire.
D'ailleurs, on voit votre cuisine est immense. Donc j'imagine que vous pouvez recevoir énormément de monde ici.
C'est vrai, ça fait peu de temps que j'ai emménagé ici à Ilkirch, et j'ai organisé vraiment mon espace de travail pour pouvoir accueillir du monde, parce que j'envisage de faire de proposer des ateliers culinaires donc chez moi. Et j'ai pas encore eu l'occasion d'organiser ces ateliers parce que je vais démarrer en septembre, mais j'ai déjà expérimenté des soirées avec des amis, et c'est vrai que c'est un espace qui est tout à fait propice pour la convivialité.
Ouais.
C'est vrai.
Alors d'où vous vient ce goût pour la cuisine? C'est de l'enfance? C'est votre maman qui cuisinait très bien?
Alors oui, beaucoup de l'enfance, parce que j'ai la chance d'être issue d'une double culture. Mon papa est franc-comtois et ma maman marocaine, et j'ai vraiment énormément de souvenirs d'enfance qui tournent autour du goût, des saveurs, des odeurs. J'ai passé une partie de ma petite enfance au Maroc, et c'est vrai que j'ai vraiment toute cette palette d'arômes, de saveurs, de senteurs qui m'a accompagnée depuis toute petite. Et ce mix de cultures, la cuisine marocaine qui est vraiment très haute en couleurs, en épices, et puis la cuisine franc-comtoise, le poulet, le coq au vin jaune et au mori, le comté, enfin voilà, j'ai vraiment baigné dans cet univers de gourmandise.
On faisait la cuisine chez vous?
Oui, ma grand-mère, la mère de ma mère, donc était une très fine cuisinière. Donc j'ai goûté à ces savoureux petits plats marocains. Ma maman aussi, vraiment quand j'étais petite, cuisinait énormément, était très douée. Très ouais. Douée, c'est vrai que j'ai des souvenirs, elle nous faisait des croissants. Mais c'était des flopés de croissants, alors, je sais pas combien de dizaines elle faisait, ils tenaient 2 jours, même pas, enfin je crois que le jour même on arrivait à tout engloutir tellement c'était bon. Donc je pense que il y avait ce côté convivial aussi chez mes parents qui invitaient beaucoup de monde à la maison, donc j'ai été baignée de cette culture de partage, de convivialité autour de la table.
Et donc vous avez voulu en faire votre métier, c'était l'idée de départ ou bien?
Alors c'était pas du tout l'idée de départ. J'ai eu plein d'envies quand j'étais petite. Ben, comme toutes les petites filles, je voulais être maîtresse d'abord. Et puis après, j'ai été passionnée par le chant. Donc je rêvais d'être chanteuse d'opéra.
Ensuite, et vous chantez?
Je chante sous la douche.
Il y aurait un air que vous aimeriez nous faire partager?
Ah, non, je peux pas. j'ai pas invoqué la pluie là. On va laisser le soleil s'installer si possible. Non, mais j'ai en fait j'ai vraiment été attirée par plein de d'univers différents depuis toute petite. Et la cuisine faisait pas du tout partie de mes plans. Et j'avais pas du tout projeté ça. Par contre, j'avais une passion pour l'écriture. Et de fil en aiguille, cette passion, elle m'a amenée à pratiquer le journalisme de manière complètement autodidacte. Et c'est là que j'ai rencontré des chefs, et notamment les chefs des Étoiles d'Alsace, pour lesquels on m'avait confié la rédaction d'un numéro hors série pour les saisons d'Alsace. Et donc, j'avais fait la tournée des popotes, plus d'une trentaine de chefs qui m'avaient accueilli dans leur cuisine. Et donc, j'avais dressé le portrait. J'avais rédigé des articles. Mm-hmm. Et c'est un peu comme ça que je suis tombée dans la marmite, on va dire. J'étais déjà intéressée par la cuisine. Je cuisine énormément chez moi. Mais là, ça m'a ouvert un pan encore inconnu, méconnu pour moi, la gastronomie avec tout ce qu'elle charrie d'exigence, de d'art, de beauté,
de précision aussi, hein.
De précision, de rigueur. Ouais. Enfin, ça a été une découverte absolument enchantée pour moi. Et à partir de ce moment-là, ça devait être en 2003. À partir de ce moment-là, je me suis dit, waouh, un jour. Moi aussi, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de créer des recettes et j'ai envie de partager, de faire plaisir, de recevoir des gens et de les faire manger, de leur faire goûter des choses préparées avec amour.
Mais alors, vous avez eu envie de poursuivre des études dans le domaine culinaire, de faire éventuellement une école, je sais pas. Comment vous vous êtes formée?
Alors, l'occasion de faire une école, c'est pas vraiment présenté. Je me suis formée sur le tas, on va dire, chez moi, en pratiquant. Voilà.
En mettant les recettes que les chefs vous avaient confiées en...
Par exemple,
vous réalisiez,
oui,
en pratique.
Fait, au début, je reproduisais énormément de recettes. Quand j'étais plus jeune, c'était je prenais une recette et je la faisais de bout en bout. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre plus de liberté, à avoir suffisamment de repères en cuisine pour être capable d'imaginer un plat et sans avoir besoin d'une recette, de suivre un fil conducteur, en fait. Il faut dire que ces chefs, ça a vraiment été le déclic. Et ce qui m'a aussi marqué, c'est leur attachement au terroir, cette volonté de sublimer des produits qui sont fabriqués, produits pas loin de chez eux. Cet attachement aussi aux traditions, cette revisite des plats traditionnels. Et tout ça, finalement, ça a nourri aussi ma façon de cuisiner. Et c'est comme ça, en fait, que j'en suis venue à créer ce blog et à être et à vraiment me consacrer à cette cuisine alsacienne.
Mais alors, comment on fait? On dit, je vais créer un blog, mais le blog, il n'a d'intérêt que si les gens le regardent. Comment on fait pour que les gens s'intéressent à vous?
Alors, c'est une bonne question. En fait, c'est vrai que si on n'a pas de lecteur, en fait, ça sert pas à grand-chose. Ça change pas grand-chose, d'ailleurs.
Et en même temps, des blogs culinaires, il y en a plein.
Oui. En fait, ce qui s'est passé à l'époque, il y avait un ami qui venait très régulièrement manger à la maison. Et à chaque fois, il me disait, mais waouh, c'est merveilleux ce que tu fais, mais c'est génial, mais t'as un don, mais fais donc un blog de cuisine. Et moi, je lui disais, mais j'ai pas le temps, puis je sais pas comment ça marche. Et puis un jour, il est arrivé chez moi, il m'avait créé la plateforme Et puis, il m'a dit, bah, maintenant, t'as pas le choix, faut l'alimenter. Et ça, c'était en 2014. Et j'avais aucune pratique du blog, des réseaux sociaux. J'étais même pas inscrite sur Facebook, je crois. Et c'est comme ça que je me suis dit, bon, maintenant, si tu commences à partager des recettes, il faut le faire connaître. Il faut que des gens puissent y accéder. Comment je vais faire? C'est comme ça que j'ai commencé à m'inscrire sur les réseaux sociaux et à communiquer via les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que le blog est monté
petit à petit pour arriver aujourd'hui à presque 100 000 followers. C'est énorme.
C'est vrai qu'il y a eu un engouement complètement inattendu sur cette thématique des recettes alsaciennes.
Vous faites que des recettes alsaciennes?
En fait, les recettes, ce sont soit des recettes traditionnelles que je m'amuse à remasteriser, on va dire.
Traditionnelles alsaciennes?
Ouais, tout à fait.
Toujours alsaciennes.
Ou alors, vraiment, je m'inspire des produits locaux et de tout ce qu'il y a à notre disposition en Alsace, que ce soit les fruits et légumes, les fromages, tout ce qui se produit chez nous pour imaginer des recettes de saison qui mettent en œuvre tous ces produits.
D'accord. Et donc, ce blog, il marche tout de suite?
Bah, ça met du temps, forcément, ça met un peu de temps.
Mais pendant ce temps, vous aviez un travail? Comment on gagne sa vie?
Alors, comment je gagnais ma vie à l'époque? À l'époque, je travaillais pour le Black and Wine, un bar à vin strasbourgeois qu'on avait monté avec mon ex-conjoint. Et du coup, j'étais en cuisine. J'étais en cuisine en 2014. On a lancé ce bar à vin. Et ils cherchaient un concept culinaire qui permette de produire à l'avance et de proposer néanmoins quelque chose de savoureux à ses clients. Et c'est là que j'avais imaginé un concept de tarte fine qui évolue au gré des saisons avec un fond de pâte feuilletée fabriqué par un pâtissier pour ne pas le citer, amande et cannelle à Strasbourg. Donc déjà un bon produit à la base et que j'agrémente en fonction des saisons. Donc ça donne un produit qui est vraiment savoureux, qui s'accorde bien avec le vin. Et qu'on peut emmener un peu partout avec des thématiques différentes. Voilà, pour vous donner un exemple, une tarte fine orientale avec un pesto oriental. On va retrouver de la coriandre, de l'amande, du citron confit dans le pesto. Ça, c'est le fond de la tarte fine. Et ensuite, on va avoir des carottes marinées au ras à la noutre. Et dessus, un fromage, par exemple, un chèvre d'Alsace qui se mariera bien avec.
D'accord, donc vous mélangez aussi votre culture marocaine, justement, à ces saveurs d'Alsace.
Oui, alors en fait, quand on travaille avec le goût, on commence à se forger toute une palette avec tout ce qu'on a pu expérimenter et tout ce qu'on a aimé. Et puis après, on pioche dedans pour imaginer les saveurs pour les marier, pour...
Donc il faut être créatif, c'est parce que moi je me dis, j'adore regarder Top Chef et toutes ces émissions là. D'ailleurs vous allez m'en parler et je suis toujours impressionnée par les mélanges qu'ils font et hop ils rajoutent un petit peu de ça et un petit peu de ça et ça change tout.
Je pense qu'en cuisine oui il faut avoir des références culinaires, il faut élargir sa palette.
Mais ça veut dire on lit beaucoup de livres de recettes, on fait c'est quoi une expérience culinaire?
Moi, je l'ai beaucoup acquise par le voyage. Et puis, c'est aussi en expérimentant des restaurants, en goûtant des produits. Quand je voyage, j'aime vraiment beaucoup aller sur les marchés, goûter les nouveaux produits. Et puis, le restaurant aussi, c'est des expériences.
Mais comment vous faites pour garder la ligne avec tout ce que vous mangez? C'est pas possible.
Je trouve des vêtements qui dissimulent bien.
Parce que si vous goûtez tout le temps, c'est pas possible.
Non, mais je suis une fausse mince, en fait. Ah, voilà, c'est ça le secret.
Donc, vous vous imprégnez des cultures que vous découvrez, au final, et vous le retransmettez dans vos recettes.
C'est ça, oui, vraiment.
Mais bon,
il faut
avoir
cette curiosité, c'est cette envie. Enfin, déjà, c'est...
Et puis, ce culot, parce que vous n'avez aucun diplôme. Si j'ai bien compris, vous êtes complètement autodidacte. Oui. Pour autant, vous ouvrez un restaurant, quoi. Ou un bar à vin.
Bon, après, j'étais pas toute seule non plus. Et puis, le fait d'être autodidacte, finalement, ça peut être aussi un sacré avantage. Parce que justement, on n'est pas formaté. Et du coup, peut-être qu'on ose plus.
On s'interdit rien.
Oui, voilà. Le champ des possibles, il est complètement ouvert. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de frein, on ose, on essaye. Après, j'y suis pas allée non plus en roue libre. J'ai beaucoup travaillé. Faut pas croire que je fais un essai et puis qu'il est concluant tout de suite. Les tartes fines, pour les élaborer et qu'elles soient vraiment au top, j'ai travaillé un mois complet dessus. J'ai fait des essais et des essais. J'ai cramé des fournées entières qui ont complètement raté parce que je testais le matériel du bar et ben quand on commence, on connaît pas le matériel. Le four, il se trouvait qu'il avait fait son bout de chemin et qu'il était en bout de vie et que je pouvais plus compter dessus. Mais ça, avant de le comprendre, ben j'ai eu quelques fournées bien ratées. J'ai organisé des dégustations, j'ai fait goûter, j'ai testé la manière dont ça réagissait à la congélation, par exemple.
Ouais. Donc de l'expérience, en fait.
Faut faire des expériences. Tout est possible à partir du moment où on se donne les moyens derrière de répondre à un certain nombre d'objectifs et ben, peut-être qu'on travaille encore deux fois plus que quelqu'un qui arriverait avec les diplômes, avec l'expérience. Mais après, l'expérience, quand on veut, on l'acquiert. C'est tout, on se donne les moyens de l'acquérir.
Il y a une musique qui vous fait penser à cette époque, ce bar à vin, parce que c'était votre première ouverture vers le public, ce bar à vin.
Oui, absolument. D'ailleurs, on avait travaillé sur des playlists à l'époque. Mais j'ai une musique qui me revient en tête, c'est Muse, Can't Take My Eyes Off You.
Ça donne une bonne ambiance.
Oui, sympa, avec le côté un peu décalé, comme j'aime bien, c'est vrai. You're just too good to be true. Can't keep my eyes off you. You feel like heaven to touch. I wanna hold you so much. As long as love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Il existe toujours ce bar à vin? Il existe toujours et ce sont toujours mes recettes qui sont
mises en œuvre. Ah d'accord. Oui. D'accord, mais vous n'y travaillez plus?
Je n'y travaille plus, non.
Donc maintenant, vous êtes à 100% sur le blog?
Je suis à 100% sur
blog,
mes activités.
Plus vos activités annexes, vous faites aussi pour des entreprises, c'est ça?
Oui, je travaille avec des entreprises maintenant qui auraient besoin de communiquer, par exemple, sur un produit et que je vais mettre en œuvre à travers des recettes. Donc, c'est une manière
comme détournée. Un placement de produit, c'est ça?
Voilà, c'est une manière détournée de faire connaître le produit. Alors, bien sûr, je travaille avec des entreprises, mais je choisis mes entreprises. Je travaille avec des entreprises qui partagent des valeurs communes, le plus souvent implantées en Alsace. C'est aussi la difficulté quand on tient un blog, c'est de pas non plus, c'est de rester fidèle à sa ligne éditoriale. Je vais pas aller vendre des biscuits de Bretagne demain, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Mmh. Donc à partir du moment où ça reste dans mon fil conducteur et que ça a du sens pour mon lectorat, oui. Ça m'arrive d'avoir des partenariats.
Mais alors, c'est les marques qui vous contactent en disant, tiens, je ne sais pas, admettons, on est à la période de Noël, je suis la farine poète-poète, oui, utiliser mes produits, comment faire, ça?
Oui, voilà, c'est ça. D'ailleurs, j'ai eu l'opportunité de travailler pour une marque de farine alsacienne l'année dernière, au moment de Noël. On a élaboré ensemble un menu de A à Z, de l'apéro jusqu'au dessert. Et j'ai mis en œuvre leurs produits, qui sont d'excellents produits d'ailleurs. Ça m'a permis vraiment de découvrir cette marque. Et c'est un moyen pour la marque de communiquer vis-à-vis d'un public tout en offrant un contenu de qualité et en rendant un service finalement, puisque les gens au moment de Noël, ils vont chercher des recettes de Noël.
Non, mais c'est ce qu'on appelle les influenceurs. Aujourd'hui.
Voilà, c'est ça.
Hein, ce mot magique.
C'est un mot que j'aime pas beaucoup, j'ai du mal avec, mais effectivement, on appelle ça.
C'est-à-dire
la stratégie d'influence.
Tous ceux qui vous suivent et qui voient que vous utilisez cette farine-là se disent ah ben moi aussi je vais l'acheter.
Pourquoi pas la tester à partir du moment où il y a une confiance et que mes lecteurs ont confiance dans les contenus que je produis.
Oui.
Et ça,
c'est ce que
j'essaye de faire
achète.
De la qualité. Voilà, il y a les gens vont suivre ou pas. Il y a zéro obligation après.
Ça vous est arrivé de dire non à une marque?
Bon, je suis pas non plus sursollicitée, mais oui, bien sûr, ça m'est déjà arrivé même d'arrêter des collaborations parce que ça ne correspondait plus à mon... Voilà, la manière dont j'ai évolué dans ma cuisine aussi.
Vous avez évolué comment ?
Bah, c'est-à-dire que je suis de plus en plus, plus le temps passe et plus je suis vraiment attachée à cette notion de terroir. Je fais aussi beaucoup plus attention aux provenances de mes produits, aussi sur tout ce qui est produit, boucherie, etc. Ben, je vais être, déjà j'ai beaucoup, beaucoup diminué ma consommation de viande. Donc je vais pas encourager forcément ma communauté à manger de la viande tous les jours et à manger de la viande industrielle. Donc là je suis devenue beaucoup plus regardante sur la manière dont sont élevés les animaux. Enfin, forcément en cuisinant beaucoup et puis en m'adressant à un public, il me semble que je me dois d'être un peu exemplaire dans le domaine. Donc moi j'ai vraiment ces dernières années beaucoup beaucoup fait évoluer ma manière de consommer. Je regarde beaucoup plus les étiquettes. Je fais plus attention.
D'accord. Donc ça, c'est important et vous le partagez, du coup.
Oui.
Donc les marques, elles doivent se plier un petit peu à vos valeurs, comme vous disiez tout à l'heure, ou à votre façon de voir la cuisine.
Oui, c'est pas qu'elles se plient à mes valeurs, c'est que nos valeurs communes font qu'à un moment donné, on va se rencontrer, on va avoir envie de faire un bout de chemin ensemble.
Ouais.
Je le prendrai plutôt dans ce sens-là.
Dans ce sens, d'accord. Alors, racontez-moi un petit peu comment il est possible que vous ayez échoué à Masterchef et à Top Chef avec tout ce que vous faites.
C'est la loi des concours. Après, j'ai participé à un concours Masterchef, je crois que c'était en 2015, après avoir... j'avais gagné un concours en Alsace, un petit concours régional, mais n'empêche que ça m'avait vraiment beaucoup aidé dans mon parcours. Ça m'a conforté dans mon envie de cuisiner, dans mes compétences, parce qu'il y avait un jury de chefs étoilés et j'avais un peu besoin de cette caution. Donc, c'était le concours chef à bord qui était, et je crois qu'il est toujours en vigueur chez Alsace 20. Et l'année
Donc
suivante...
Donc là, vous faisiez des recettes à la télé, en fait.
Oui, c'est un concours télévisé, en fait, qui se passait en plusieurs étapes. Et voilà, j'avais gagné ce concours. Et je m'étais vraiment prise au jeu du concours, alors que je ne pensais pas du tout. J'étais très, très stressée lors de la première épreuve. La présence des caméras, ça me rendait malade. Et première épreuve, coup de cœur du jury. Et là, je me suis dit, waouh, c'est possible, je vais y aller, je vais tout donner. Et ça a été mes premiers pas aussi à la télévision. Et ça m'a, oui, ça m'a confortée dans l'idée qu'il était possible pour moi de faire de la cuisine mon métier. Ça a été un vrai tournant. Voilà, je remercie encore Alsace 20 aujourd'hui.
Et donc, vous gagnez ce concours et vous dites, ça donne des ailes, je vais en faire un autre.
Oui, enfin, c'est plutôt... en fait, il y a Masterchef qui est arrivé à Strasbourg et je ne sais plus par quel biais il m'avait sollicité.
C'est
eux qui sont venus me chercher.
D'accord.
Et je me suis dit, ben oui, pourquoi pas, je vais tenter ma chance. C'était un concours de cuisinier amateur, donc dans lequel je pensais avoir... pourquoi pas ma place. Et puis voilà, j'ai participé, je suis arrivée parmi les 18 derniers, mais bon, ça a coincé, j'ai pas été retenue.
Vous vous souvenez quel plat vous aviez fait ?
J'avais fait un plat, un mix entre cuisine française et marocaine. Je me rappelle plus exactement du plat, mais en tout cas, c'était un plat vraiment avec une double inspiration, on va dire. Voilà, donc j'ai échoué sur le plat qui m'aurait permis de rentrer dans ce programme-là.
Donc là, à ce moment-là, c'est pas encore télévisé, c'est-à-dire que vous...
Si, déjà. Il y a des images qui ont été tournées.
Ah oui, ouais, d'accord.
Ouais, absolument. Mais je suis jamais passée.
D'accord.
Je suis jamais passée à la
télé. Donc c'est des images qu'ils exploitent pas, en fait, ou peut-être qu'ils montrent en preview pour parler finalement des candidats.
En fait, ils avaient tout le parcours était. Je faisais déjà partie du programme jusqu'à l'entrée des 12 derniers, en fait, qui font vraiment.
Ah, c'est les 12 derniers, voilà. D'accord.
C'est les 12 derniers qui font tout le parcours.
D'accord. Et donc, ça vous a apporté de la notoriété, ça ?
Pas du tout.
Pas du tout.
Non,
vous aviez déjà le blog à cette époque ?
J'avais déjà le blog mais ça a été une expérience. Ça a été une expérience enrichissante parce que j'ai quand même fait une semaine de tournage. On se levait à 4 heures du matin. C'était épuisant.
On dort tous dans la même maison, c'est ça ?
Là, on était dans un hôtel, mais c'était enrichissant. J'ai rencontré d'autres cuisiniers amateurs. J'ai rencontré des chefs. J'ai vécu des ambiances de tournage avec toutes les exigences que ça peut avoir. Et ce côté-là m'a beaucoup plu, en fait. Et peut-être aussi que ça m'a donné le goût et l'envie de faire de la vidéo. Donc en fait, toutes les expériences sont bonnes à prendre, même s'il y a un échec derrière. Il y a eu aussi des apprentissages, une stimulation, des découvertes, et puis une envie, pourquoi pas, à un moment donné, je me dis, mais pourquoi pas faire de la télé, alors que j'étais tellement loin de cette idée-là avant. Le micro me paralysait, la caméra me paralysait, et là, j'ai découvert un univers de rigueur, d'exigence, qui demande un grand, grand professionnalisme, et ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc voilà, j'en ai retiré des choses.
Ouais. Et est-ce qu'on est naturel dans ces cas-là, ou est-ce qu'on joue un rôle? Comment ça se passe?
Sincèrement, on est tellement fatigué, on est tellement dans l'ambiance du tournage qu'on oublie complètement qu'on a des micros.
Ah ouais?
On oublie complètement qu'il y a des caméras.
C'est vrai?
Enfin, en tout cas, moi, c'était mon cas. C'est
Vous faites votre recette et puis vous pensez même pas à ce qui se passe autour.
Bon, quand on est dans le feu du concours, quand même, il y a le trac, de se louper. On découvre l'épreuve en même temps que tout le monde. Là, il y a tout qui se bouscule dans la tête, mais on devait faire une bouillabaisse. J'avais jamais fait ça de ma vie parce que le tournage se passait à Marseille. Et là, c'est panique à bord. C'est comment on se débrouille avec le peu de références qu'on a sur cette recette.
Parce qu'on n'a pas le droit d'ouvrir son iPad de regarder.
Non, pas du tout.
Ah oui, donc on se débrouille.
On se débrouille, absolument.
C'est-à-dire une bouillabaisse, où si vous avez jamais mangé ça de votre vie ou jamais fait ça de votre vie, comment on fait?
On interprète.
Ah ouais?
on donne une version qui peut être la sienne. Bon, on sait que c'est à base de poisson. On va se débrouiller, puis on voit à peu près les ingrédients. On se débrouille. C'est ça dans le concours qui est difficile. C'est surtout, au-delà des connaissances techniques, c'est avant tout une bataille qu'on livre avec soi-même. Et c'est, la grande leçon que j'en ai tirée, c'est que c'est vraiment, vraiment une question de mental.
Ah oui.
Il
y en a qui craquent.
Bien sûr. Il y a des gens qui craquent, forcément, parce que, Pour certaines personnes, elles arrivent dans ce concours et elles misent toute leur vie dessus. Pour elles, ça va être le moment, le tournant qui va faire que leur rêve va pouvoir se concrétiser ou pas. Ce qui, on le vit de cette manière-là, mais ce qui est complètement faux, bien évidemment, parce que tout ne se joue pas sur un concours, et bien heureusement. Et parfois, se vautrer, c'est
mieux.
Ben oui. Aussi parce qu'on apprend de ses échecs et parce qu'on se relève encore plus fort, avec encore une idée encore plus précise de ce qu'on veut, de ce qu'on veut pas.
Donc vous faites cette bouillabaisse, mais finalement ça passe, puisque
oui, ça passe. Oui, ça passe. Enfin, je suis vraiment tous les concours jusqu'à la fin de la semaine, je passe jusqu'à arriver aux 18 derniers. Et là, je me vautre sur mon plat signature.
Donc oui, parce
que je suis censée maîtriser. Ah ouais.
D'accord.
Comme quoi on peut se débrouiller sur quelque chose qui nous paraît insurmontable et puis après se casser la figure quand on est à la maison, quoi.
Ouais, c'est dingue, hein. Mm. Peut-être on fait moins attention ou on se laisse plus.
Non, peut-être que la pression est trop forte.
Ouais. Donc vous rentrez à la maison déçu?
Oui, je rentre à la maison forcément déçue, mais aussi avec une revanche à prendre, avec encore plus la niaque et plus l'envie de me faire plaisir en cuisine, parce que finalement ce que je retiens c'est ça, c'est le concours. Le concours c'est bien pour se mesurer, pour essayer de grandir, mais finalement c'est un chemin parmi tant d'autres, et pour grandir en cuisine et grandir dans le partage et dans mon métier, il y avait plein d'autres voies possibles. En tous les cas,
vous baissez pas les bras.
Non. Jamais.
Et là, on a toujours le blog, hein. On continue à alimenter, donc vous gagnez votre vie, mine de rien. Ah oui, vous êtes toujours au
là,
bar.
Là, j'étais toujours au Black and White.
Au Black and White. Ouais. Mm. Et alors, Top Chef? Parce que vous récidivez, en plus.
Ah oui, plusieurs, j'ai vraiment pas la mémoire des dates. Ça, j'ai du mal, mais, je reçois un jour un coup de fil de Top Chef.
Ah là aussi, c'est eux qui viennent vous chercher.
Oui. D'accord. Curieusement, alors j'ai compris qu'ils étaient venus me chercher parce qu'il manquait cruellement de candidatures féminines.
Ah.
Donc ils avaient beaucoup de chefs d'hommes, mais ouais, très peu de femmes.
D'accord.
Donc ils sont venus me chercher via le Black and Wine d'ailleurs.
D'accord.
Et voilà, j'ai passé un casting, envoyé des photos.
Donc là, on est d'accord. La différence, c'est que c'est des cuisiniers professionnels.
Là, c'est des cuisiniers professionnels, absolument. Et Et du coup, bon, je me sentais vraiment pas. Enfin, j'y suis plus allée par curiosité qu'avec l'idée que j'allais pouvoir participer à ce concours, parce qu'il me semblait absolument impossible de rivaliser avec des chefs étoilés, avec le peu d'expérience que j'avais. Mais j'avais envie de découvrir aussi un autre tournage télé. J'avais vécu des choses pas forcément très sympa sur Masterchef. C'était une saison qui avait été beaucoup décriée. Il y avait eu pas mal d'ennuis sur le tournage. Et donc là, je me suis dit...
Quoi bon, comme ennui, on a envie de savoir.
Ben, bon, c'était... On les a soupçonnés d'avoir beaucoup trafiqué les choses et que les dés étaient un peu pipés.
Ah, d'accord. Et qu'ils avaient choisi un peu les personnages, voilà, pour faire de l'audience.
Voilà, mais en fait, qu'ils ont simulé des conditions de concours alors que tout avait déjà
tout
été
était décidé.
Déjà décidé,
d'accord.
Donc, c'est une saison qui a fait un gros flop, qui a pas vraiment fonctionné. Les candidats sont un peu rebiffés. Voilà, donc j'avais une expérience un peu... enfin, pas très glorieuse de la télévision et des maisons de production, voilà, qui cherchent à faire de l'audimat et qui sont pas forcément droites dans leur basket. Donc, mm-hmm. Je me suis dit, bon, pourquoi pas aller voir ce qui se passe du côté de Top Chef. Voilà, donc je suis allée à Paris. Et d'ailleurs, la première personne que j'ai rencontrée, c'est le chef qui avait repris les rênes du crocodile.
Ah oui. Ah ben lui, il a fait Top Chef aussi.
Mais on s'est rencontrés. Lui, il a gagné cette saison.
Ah, il a gagné cette saison.
C'est la première personne que je rencontre. Maintenant, son nom m'échappe.
Oui, moi aussi. Il est plus en plus au crocodile.
Maintenant, il est en Suisse. Et du coup, très sympa, on a commencé à échanger, à parler de nos vies.
Lui, il venait pas d'Alsace, hein.
Mais lui, il venait
d'Asie,
de Chine, je crois.
Oui, voilà, exactement.
Je sais plus si c'était la Chine ou le Japon. Bref, il venait d'Asie, alors il me racontait son voyage, etc.
Exactement.
Et c'était avant que l'équipe de Top Chef n'arrive et nous dise « interdiction de vous parler ».
Ah bon ?
Tout était sous le sceau du secret, rien ne devait... Enfin, c'était très, très, très rigoureux, très sérieux.
Entre vous, vous n'aviez pas le droit de parler.
C'était une journée très bizarre, on n'avait pas le droit de communiquer entre nous. Parce qu'il fallait qu'il y ait zéro fuite, quoi. Donc voilà, j'ai passé ce...
Ça, c'est le casting, hein. Ça, c'est le... Ils vont vous choisir pour savoir si vous allez continuer.
Là, il nous faut faire des épreuves. Donc, on a deux épreuves. Une épreuve qui est improvisée. Enfin, on a un panier et on doit composer avec. Et une épreuve où on a été préparé sur un plat qu'on a choisi.
Que vous amenez, alors ?
Où on amène nos ingrédients, etc. Donc, moi, j'avais préparé un carré d'agneau en croûte d'herbe à l'oriental. Et j'ai travaillé ce plat avec Mathieu Koenig, qui est le chef de l'Arbre Vert à Bervillers, qui m'a coachée. Donc, on a travaillé en cuisine ensemble. C'était un super moment d'échange, de partage. Mathieu Koenig, c'est le chef qui m'a coachée pour l'aventure Chef à bord.
D'accord.
Donc, on a gagné Chef à bord ensemble. Et c'est quelqu'un qui est resté... qui me suit toujours de très près, qui m'encourage quand j'ai des questions culinaires, c'est à sa porte que je vais frapper. Il est toujours là pour moi, en fait. C'est une belle amitié qui est née de cette aventure. Et donc, je suis allée chez lui à Bervillers pour cuisiner, mettre en œuvre mon plat.
Donc, vous l'avez fait plusieurs fois
Je me suis beaucoup entraînée, je l'ai fait plusieurs fois. Et puis arrivé le jour J, moi j'ai eu un tas d'embrouilles, hein. Ça ne peut jamais se passer comme il faut. Je suis arrivée avec ma glacière, je faisais une croûte d'herbe qui donnait toute la saveur. Elles avaient cramé au contact du
froid.
Au contact du froid. Enfin bon, rien ne s'est passé comme je voulais.
Mais alors du coup, ils ne vous donnent pas d'autres ingrédients ? Vous débrouillez ?
Non, il faut se débrouiller avec ce qu'on a. Bon, j'ai réussi à aboutir à peu près de quelque chose, mais je savais que c'était je savais que c'était loin d'être parfait et sur le plat où ils nous ont imposé les ingrédients, bah pareil, je suis tombée sur du maquereau. J'avais jamais cuisiné de maquereau, donc j'étais en stress total. Mais alors que avec mes quelques références culinaires, je sais que c'est un poisson qui a besoin de très peu de cuisson. J'ai été capable de m'en sortir, mais j'ai passé beaucoup trop de temps à stresser au lieu de juste prendre les choses comme elles viennent. Enfin, comme quoi, c'est vraiment une question mentale.
Parce que, d'ailleurs, on les voit toujours avec le temps. Le temps, c'est un enfer.
Oui.
Parce qu'ils ont X temps, une heure pour cuisiner un truc et ils sont toujours à la ramasse.
C'est sûr. Mais après, quand on est bien dans ces... Enfin, quand on est vraiment dans la thématique est dans sa recette, la notion de temps, on l'oublie et tout, on est vraiment dedans. Mm-hmm. Mais là, j'ai pas réussi à me mettre dedans, en fait. J'ai été dévorée par mon stress et j'ai vraiment pas réussi à me mettre dedans.
Donc, vous passez pas le cut.
Donc, je passe pas le cut. Mais néanmoins, j'ai quand même quelques compliments du jury. Voilà, qui me demande depuis quand, combien de temps je fais de la cuisine et qui m'encourage, qui me dit c'est pas mal. Et puis j'ai les résultats et j'espérais évidemment pas faire partie des 20 sélectionnés, mais j'ai reçu un petit coup de fil qui me disait que j'étais quand même pas,
pas loin, quoi.
Il y avait eu 100 personnes retenues pour passer le casting et j'étais dans les 50 premiers, il me semble. Donc, c'était honorable. On m'a dit, vous êtes passé devant des chefs étoilés.
Bon. Ah, bah,
c'est qu'ils ont dû avoir des tuiles, les pauvres aussi, parce que, non, vraiment, le concours, c'est quelque chose. C'est pas la cuisine qu'on fait chez soi. C'est un gros stress. J'avais passé un autre concours, par contre, qui s'est passé dans des conditions incroyables, où là, j'ai été portée. J'y suis allée, c'était un concours organisé sur la place qui est derrière la cathédrale, là. C'est Place du Château, il me
ouais.
semble.
Ouais, Château des Rohan, non?
Ouais, ou, hein. Et c'était dans le cadre du Au gré des bières, ça s'appelait, c'était Nicolas Riffel qui organisait ça. Et donc, il organisait ce concours et il a demandé à 4 blogueuses de venir se mesurer entre elles. Et j'y suis allée, mais... perdue, j'avais jamais cuisiné avec de la bière, parce que là, il s'agissait de mettre en œuvre des recettes avec de la bière. Et j'y suis allée, le moral dans les chaussettes en plus, parce qu'on venait de perdre un ami très cher. Donc j'étais vraiment râlée pâquerette et je me suis dit, je vais juste faire acte de présence. Et on était quand même sur une estrade avec la foule et mon fils, qui devait avoir 3 ans à l'époque, qui est venu se poster devant l'estrade et qui me disait « Maman, vas-y, t'es la meilleure, vas-y, tu vas gagner !» Et là, j'ai été
transcendée
d'une force et je me suis dit « Mais je peux pas le décevoir, en fait, je peux pas le décevoir !» Et tout s'est passé, j'ai été à fond dans mes recettes, j'ai sorti des trucs, on avait très peu de temps, voilà, puis j'ai gagné ce concours facilement, mais comme quoi, c'est une question de mental, juste parce que mon fils... de 3 ans était là et que je pouvais pas le décevoir.
Mais peut-être aussi parce que vous vous y étiez déjà un peu cassé les dents avant et que vous aviez appris.
Non, ça c'était encore avant.
Avant Masterchef.
Non, je crois que c'était après Masterchef. Ça c'était après Masterchef. Mais voilà, comme quoi les concours, mais c'est riche. C'est faut avoir les nerfs solidement accrochés et faut être un peu maso quand même parce que
se mettre en danger en
oui,
fait à
c'est
chaque
ça.
Fois.
Hein, c'est ça. C'est moi je fais encore des cauchemars où je rêve que je dois passer mon bac.
Oui, bah moi aussi. Hein.
C'est pour moi ce truc qui se joue où on va mesurer tout ce qu'on est à une épreuve. C'est tellement impossible. C'est tellement... la sentence, elle peut être tellement redoutable. Et donc, je fais des cauchemars là-dessus. Néanmoins, j'ai été assez maso pour tenter des concours et me mettre dans cette situation où on flippe, où on est mal, où on se dit que toute sa vie, même si c'est complètement faux, se joue là, à cet instant en présent.
Oui, mais finalement, vous aimez bien vous mettre en danger parce que...
Moi, toujours. Hein? En fait, toujours.
C'est ça, votre truc.
Je crois que c'est ça. Je crois que j'aime la difficulté et j'aime le défi. Et qu'en fait, ce qui m'anime, c'est aussi cette idée de partir vers l'inconnu et quitte à me brûler les ailes, mais d'arriver quelque part et de composer avec toutes les difficultés, les freins et d'apprendre parce que c'est des moments où on apprend tellement sur soi, sur les autres, sur des compétences qu'on n'a pas, quoi, et qu'on se donne l'opportunité d'acquérir. J'ai été sollicitée il y a quelques années par France 3 pour participer à une chronique dans l'émission d'Hervé H. Bachet le matin.
Ensemble, c'est mieux.
Mais les premières fois, sachant qu'on faisait du direct. Mais j'allais à l'abattoir. Enfin, c'était l'enfer pour moi. C'était horrible. En fait, j'avais l'impression d'être en haut d'une falaise et qu'il fallait que je me jette dans le vide. Mais tout ça, tous ces moments de la vie où on est obligé de se dépasser finalement, de faire face à ce qui nous fait le plus peur, c'est après des mini-victoires qui nous enrichissent et qui nous font du bien.
C'est clair. Est-ce qu'il y a une musique qui vous rappelle un peu tous ces concours? Est-ce que, par exemple, quand vous êtes hyper stressé, vous vous mettez une musique. Est-ce qu'on a le droit d'écouter de la musique en cuisinant dans ces concours?
Non, en cuisine, pas de musique.
Pas de musique en cuisine.
C'est quand même rigoureux, mais moi j'écoute beaucoup de musique quand je cuisine. Enfin, quand je suis toute seule, il y a pas de raison. je sais pas s'il y a une musique particulière, mais peut-être une musique qui pour moi c'est un peu la musique du bonheur et de l'insouciance. C'est jouer du piano debout. De France Gall. Alors ça, c'est mes souvenirs, c'est des souvenirs d'enfance et ça me replonge dans une atmosphère qui pour
joyeuse.
Moi, c'est à la fois la joie et avec une pointe de mélancolie.
Ne dites pas que ce garçon était fou. Il ne vivait pas comme les autres, c'est tout. Et pour quelle raison étrange, les gens qui ne sont pas comme nous, ça nous dérange. Que ce garçon valait rien. Il avait choisi un autre chemin. Et pour quelle raison étrange, les gens qui pensent autrement, ça nous dérange. Ça nous dérange. Il jouait du piano debout. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout.
Alors justement, par rapport à tout ça, comment aujourd'hui, j'imagine que vos parents, quand vous leur avez dit « je vais être blogueuse culinaire », ils ont dû se dire « ça c'est bizarre, c'est un métier ça ». Aujourd'hui, ils ont compris ce que vous faites.
Je sais pas trop si je leur ai dit un jour je vais être blogueuse culinaire, parce que c'était pas une vocation, ni j'avais rien planifié en fait.
Tout est venu comme ça.
C'est venu un peu comme ça. C'est comme le concours chef à bord.
Mais il faut bien que les gens vous connaissent pour vous proposer. Moi, on va pas me proposer d'aller faire un concours de cuisine.
Ah mais chef à bord, personne ne me connaissait quand j'étais chef à bord. C'était vraiment une bouteille jetée à la mer en me disant mais je vais voir ce que ça va.
Mais comment ils vous ont connu? C'est vous qui avez.
C'est moi qui ai présenté ma candidature.
Ok.
Mais à ce moment-là, j'avais pas d'idée préconçue sur ce que je voulais faire. J'avais commencé le blog, mais
vous étiez quand même assez tentée par vous dire je vais faire carrière entre guillemets dans la cuisine. Mais vous aviez fait votre choix.
Moi, c'était plus mon idée, c'était quand même de travailler dans un restaurant,
d'accord,
ou d'avoir un service
traiteur. Chez un chef.
Et je suis passée par plein d'étapes. C'est plutôt quand je leur ai dit que je voulais faire de la cuisine, j'ai commencé à travailler chez un pâtissier pour gérer son service traiteur. J'étais autodidacte, j'y suis allée comme ça. C'était des horaires. Ma fille avait même pas 6 mois quand j'ai commencé chez eux. C'est des rythmes de vie différents. Je me levais à 4h30 du matin. Je commençais à 6h. Pour les parents, il y a une inquiétude quand même. Comment elle va pouvoir jongler entre sa vie professionnelle, sa vie privée, les enfants. C'est des métiers qui sont durs, physiques, qui sont pas très bien payés, il faut le dire. Donc, quand on passe d'une carrière de communicante...
Vous étiez en agence de pub avant?
J'ai été en agence de pub et puis après j'ai monté ma propre petite agence de communication, rédaction. Pendant 10 ans, j'étais à mon compte dans
D'accord.
ce domaine-là. Donc passer de la plume à la casserole, on va dire, c'est pas une reconversion qui semble évidente. Et on passe d'un métier qui est quand même, un peu peut-être plus compatible avec une vie de famille, qui est moins exigeant en termes d'organisation, du moins, pas en termes de compétences, mais en termes d'organisation. On va sur un métier dont on sait il est réputé pour être difficile. Et il l'est. Et il l'est, je l'ai expérimenté. Travailler chez moi, faire des recettes pour mes amis ou pour mon blog, et puis me lancer dans la production culinaire pour...
Un grand nombre,
pour aussi, beaucoup. Oui, ouais. Voilà, produire massivement, c'est pas du tout le même combat. Voilà, donc au début, mes parents étaient quand même très perplexes. Et puis, au fur et à mesure, ben, quand ils ont vu que je m'accrochais et que c'était ma passion et que je commençais à avoir une reconnaissance, ben, ils ont été de plus en plus partie prenante et fiers de moi. Ils m'ont soutenue, ce qui n'était peut-être pas forcément à la base ce qu'ils espéraient pour moi, parce qu'il y avait forcément, j'imagine, des réticences.
Et ils ne vous ont pas poussé à faire des études ou à vous dire...
Oui, bah j'avais déjà 40 ans hein, quand j'ai voulu opérer cette reconversion.
D'accord.
Donc à 40 ans, on va pas sur les bancs de l'école aussi spontanément, aussi facilement. Non, enfin je pense pas qu'ils avaient une idée. Je pense pas qu'ils avaient une idée précise à l'époque de ce que je pouvais faire. Enfin, je crois qu'ils m'ont regardé d'un œil un peu perplexe et puis qu'ils se sont dit bon, on va voir, on va voir qu'est-ce que ça va donner.
Alors aujourd'hui, ou plutôt demain, c'est quoi l'évolution? Donc vous avez écrit des livres de recettes?
Oui, absolument.
Que vous
publiez,
qui marchent bien?
Bien marché, je ne sais pas ce que ça veut dire, tout est relatif, mais je pense qu'ils ont eu un bon accueil. Donc j'ai sorti un premier livre en 2018 qui s'appelait L'Alsace Enchantée.
Donc ça fait pas longtemps que vous faites ça, mais vous avez fait vite. Parce que le blog, des livres de cuisine, des émissions de télé...
Oui, bah tout s'est un peu précipité en même temps, tout s'est fait en même temps. Et puis c'est vrai que le premier livre, ça a été une aventure tellement enrichissante. Enfin, j'ai vraiment adoré cette période de création.
Et donc là, comment ça se passe? C'est quelqu'un qui vous a proposé de faire ce livre ou c'est votre idée?
Ça commençait à trotter dans ma tête. Je me disais, j'aimerais bien faire un livre de cuisine. Et puis au même moment, il y a une éditrice qui me sollicite et qui me dit, ben tiens, ça te dirait pas de faire un livre, donc c'est la maison les éditions de La Nuit Bleue. Ils avaient déjà fait beaucoup d'ouvrages autour de la cuisine alsacienne, mais là, comme j'apportais une petite nouveauté, ils se sont dit bah, pourquoi pas apporter un autre éclairage sur la cuisine alsacienne, la moderniser un peu, ouvrir ses horizons. Voilà, et on est tombé d'accord sur un premier ouvrage qu'on a réalisé ensemble. Et voilà, ça a été une superbe aventure de production culinaire intense, de moments où je ne faisais plus que rêver cuisine, imaginer des recettes. Enfin, c'était une période tellement riche. J'ai vraiment, vraiment adoré. Et donc, j'ai eu envie de remettre le couvert 2 ans après. Et là, c'est tombé en plein confinement en plus. Donc j'ai sorti mon deuxième ouvrage où je voulais vraiment faire un livre sur les légumes parce que c'est ce qui m'inspire le plus en cuisine et parce que aussi je voulais montrer qu'on pouvait se régaler avec des recettes alsaciennes mais végétariennes. Donc je me suis consacrée à cet ouvrage et là ça a été ma production du confinement. Donc finalement le confinement pour moi il s'est très bien passé. Je me suis pas ennuyée, il a été très productif et voilà j'ai toujours cette envie de continuer à faire
donc, il y a un troisième livre en gestation.
Alors, j'ai fait un troisième livre, cette fois, qui n'est pas sorti en version papier, mais que je propose en version numérique sur mon blog. Et ce livre-là, je l'ai réalisé entre la fin de l'année dernière et le début de cette année, qui est sur la thématique anti-gaspi, parce que c'est une thématique qui me tient vraiment à cœur. J'essaye de proposer beaucoup de recettes anti-gaspi sur le blog, parce qu'on a tous... des produits qui traînent dans le frigo, dont on ne sait pas trop quoi faire, des restes. Et c'est une cuisine qui m'inspire beaucoup parce que c'est une cuisine de bon sens, de tous les jours. On est tous plus ou moins amenés à cuisiner de cette manière-là. Donc j'ai sorti ce livre qui est proposé en version numérique sur mon blog. Donc c'est un PDF. Les gens peuvent l'acheter sur mon site et leur envoyer par mail dans la foulée.
Ah, c'est une bonne idée, ça, parce que du coup, c'est vrai que c'est aussi dans l'air du temps. Ne pas gaspiller, local, consommer local, c'est bien. C'est tout à fait tendance, on va dire.
C'est tendance, et en fait, c'est juste renouer avec des pratiques de bon sens qu'avaient nos grands-mères alsaciennes, qui étaient vraiment très axées sur cette cuisine-là. À l'époque, ils n'avaient pas le choix, il n'y avait pas de gaspillage. Il y a plein de spécialités alsaciennes qui ont vraiment cette vocation de recycler des restes, comme les Fleischnacka, qui permettent de recycler des restes de pot-au-feu. Donc, c'est une pâte à nouilles qui est farcie de viande de pot-au-feu mélangée aux légumes. C'est passé au hachoir et on farcit ce rouleau de pâte qu'on coupe en tranches et ça donne ces fameux escargots qui sont ensuite poêlés, cuits dans un bouillon. C'est une recette qui est fabuleuse, elle est tellement maligne. Maintenant, on renoue avec des pratiques, bien, bien plus anciennes et on renoue avec une forme de bon sens. Et il est temps.
Vous cuisinez tous les jours?
Oui, quasiment.
Pour vos enfants aussi?
Pour mes enfants
toujours
aussi. Bon, après, pour mes enfants, c'est plus compliqué parce que j'ai ma fille, elle est très difficile. Donc, des fois, je fais des menus à trois choix.
Menus. Vous voulez pas faire un livre sur pour les mamans, spécial maman,
ah,
enfant difficile?
C'est une idée, c'est une idée. Pourquoi pas? C'est vrai,
des
ça
idées,
pourrait.
Il y en a
Mais il y en a
plein,
tellement, hein. C'est vrai, il y en a tellement.
Ouais. Et alors, qui fait votre promotion? Parce que vous étiez dans la communication, donc du
oui.
coup, vous faites votre propre promotion.
Je fais mon auto-promotion. Après, c'est là où on arrive à la limite du modèle. J'ai envie de dire, c'est quand même compliqué d'être au four, au moulin.
Ouais.
En même temps. Enfin, c'est là où je me rends compte que être à la fois dans le côté créatif, faire mes livres de cuisine et en même temps communiquer sur ce que je fais. Je communique très peu sur les coulisses de mon métier. Je fais des prestations traiteur, par exemple, ou des ateliers culinaires en entreprise, tout ça. Enfin, j'arrive pas à trouver le temps ou l'énergie de mettre tout ça en scène, de le mettre en musique pour montrer ce que je fais par ailleurs. Enfin, voilà, je m'en tiens au minimum syndical, je communique sur mes recettes.
Et sur vos réseaux, quoi.
Voilà, je fais la promotion de mes recettes sur les réseaux.
Vous êtes une société aujourd'hui, vous êtes chef d'entreprise.
Absolument, oui.
Hein, donc, vous êtes passé aussi de la cuisine
au
bureau.
En fait, j'ai été chef d'entreprise, on va dire, quasi toute ma vie, parce que j'ai monté ma première entreprise, j'avais 26 ans. Et quasiment en continu, il y a eu une interruption de 2 ans où j'ai travaillé au Black and Wine, mais sinon j'ai quasiment été chef d'entreprise toute ma vie en fait.
C'est quoi l'objectif? C'est libre, être libre?
Absolument, c'est exactement ça, c'est pouvoir manager sa vie comme on l'entend, être maître de ses contenus, de ses choix, du choix de ses clients. Après, c'est une forme de liberté qui comporte ses asservissements aussi. On n'est jamais complètement libre. Mais c'est vrai que j'ai pratiqué la vie en entreprise et je m'y suis moins retrouvée. Je suis à mon compte quasiment depuis l'âge de 26 ans. Ce serait très difficile pour moi de faire machine arrière et d'être employée.
Mais en fait, vous travaillez tout le temps.
Tout le temps, oui. C'est vrai.
Bah oui, la liberté, ça coûte cher.
Mais alors, la nuance, c'est que pour moi, quand je travaille, c'est pas vraiment un
oui,
travail.
Oui,
c'est ma passion et j'en retire du plaisir. Donc c'est vrai qu'après, il y a beaucoup moins de frontières entre la vie professionnelle et la vie privée. Tout ça s'imbrique, se mélange.
Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux femmes qui savent pas cuisiner, qui aiment pas cuisiner, j'en fais partie,
oui,
pour me donner envie de cuisiner?
Bah, faut aller sur mon blog, les recettes, elles sont ultra faciles.
Oui, mais tout le monde dit ça, c'est ultra facile.
Mais
c'est jamais facile.
C'est vraiment le retour que j'ai. En fait, il y a énormément de gens qui sont, de femmes qui sont venues me voir en dédicace en me disant, et c'est des paroles qui m'ont vraiment touchée. C'était inouï de recevoir ça, certaines personnes qui m'ont dit, je ne cuisinais pas et grâce à votre blog, je me suis mise à la cuisine et j'y ai pris du plaisir parce que c'est à ma portée, c'est facile. C'est vrai que ce sont des recettes simples. Pour moi, la complexité n'est pas le gage d'obtenir quelque chose de forcément exceptionnel. Parce que si on n'a pas le niveau en cuisine, on risque plus de se dégoûter qu'autre chose. Donc on peut s'orienter vers des recettes très simples et néanmoins se faire vraiment plaisir et faire plaisir aux gens qu'on aime.
Bon, je vais essayer, mais pour moi, c'est jamais assez simple.
Bah sinon, j'organise bientôt des ateliers culinaires. Je vais vous inviter à participer à un atelier.
Ce serait bien, parce que je suis la risée de toutes
mais
mes
Mais non, je suis sûre que non.
Ah si,
sérieux.
C'est vrai. Oui, sérieux, tout à fait.
Mais c'est parce que vous n'aimez pas, alors.
Non, j'aime pas faire la cuisine.
Bah, quand on n'aime pas, il faut trouver quelqu'un qui aime, un bouc émissaire.
Et pourtant, j'aime bien faire plaisir. J'aimerais savoir faire, mais il faudrait que ce soit... hop.
Voilà, j'ai quelques
ça
recettes,
prenne pas de temps
j'ai quelques recettes comme ça, je vais
pour bluffer,
je vais
vous voyez.
Faire peut-être que ça serait une idée de
Tiens,
de
un livre
numérique, par
un
exemple.
Livre qui s'appellerait Bluffer vos amis en
bluffer
cuisine.
Bluffer vos amis avec 3 fois rien, 3 ingrédients, un truc comme
et
ça.
Et sans savoir faire.
Ouais, bon sans savoir faire, c'est possible, mais en ayant l'envie,
pas grand chose.
Et il faut avoir un minimum d'impulsion, d'envie en fait, c'est ça qui faut un petit peu de flamme, un tout petit peu de flamme.
Bon, faut que j'en trouve. Mais en vous regardant, ça donne envie. Puis quand je vois votre belle cuisine, c'est vrai que ça donne envie. Ça donne envie de faire plaisir. C'est un peu ça qui vous guide.
De toute façon, la cuisine, c'est ça avant tout. Je connais peu de gens qui passent des heures en cuisine juste pour se faire un plat pour eux-mêmes.
Ouais.
Quoique ça arrive. Hein. Mmh. On peut être bon vivant et avoir envie de se faire plaisir. Mais quand même, ce qui guide la majorité des gens et au quotidien et dans les familles, C'est quand même l'idée partage. De réunir ceux qu'on aime autour de la table et puis de passer un bon moment ensemble. Mmh. Et quoi de plus gratifiant que lorsque vos enfants vous disent « Ah, c'est délicieux, merci
bah justement,
maman. »
moi, ils me le disent, mais je ne sais pas si c'est vrai.
Ah, mais s'ils vous le disent, c'est que c'est
non,
sincère.
Non, je crois que c'est pour me faire plaisir. Dites-moi, comment vous envisagez la suite? C'est quoi votre rêve pour demain?
Oula, j'ai
comment
tellement,
on grandit parce que le blog
rêve,
c'est bien, mais c'est toujours la quête du follower, il en faut plus. Comment ça continue ça?
Bah, je dirais pas que je suis dans une quête absolue de plus de followers. Je suis déjà dans l'idée de maintenir et conserver ce qui est déjà acquis. Mm-hmm. Et ça déjà c'est un travail parce que y a la conquête d'un côté et puis il y a aussi la crainte à un moment donné que ça s'essouffle. Donc c'est toujours continuer à...
D'autant que la concurrence est rude. Hein.
Oui, c'est continuer à proposer des contenus qui font plaisir, qui sont attendus, rester droit dans ses bottes. Voilà, la tentation, elle pourrait être d'aller explorer d'autres thématiques, par exemple.
Ouais.
Mais après, c'est la difficulté maintenant, c'est vraiment comment est-ce que je fais pour que ceux qui me suivent aient encore envie d'être là demain, et de tester mes recettes. Donc, c'est déjà maintenir ce qui fonctionne aujourd'hui.
Oui, c'est déjà pas évident. Donc, c'est quoi la recette, justement?
Bah, la recette, je pense que c'est déjà entretenir cette flamme et cette envie, cette passion et cette authenticité. Je pense que le blog fonctionne et qu'il y a un engouement parce que il y a cette envie de partage qui est réelle et qui est pas trafiquée. Et si demain, cette passion devait s'éteindre, bah, forcément, je pense que ce serait un peu la fin de tout ça. Avant tout, c'est continuer à garder cette flamme, cet amour de la cuisine, cette envie de transmettre, de partager. Et ça, c'est en ayant toujours des projets qui permettent de grandir encore en cuisine.
Donc, vous continuez à expérimenter, chercher des nouvelles recettes.
Oui, en faisant de nouveaux ouvrages, par exemple, c'est vraiment l'objectif. C'est en fait d'être jamais arrivé quelque part, mais d'avoir toujours quelque chose devant soi qui maintienne cette flamme et cette envie.
Donc, peut-être demain la vidéo, justement, montrer aux gens comment on fait.
Je fais déjà quelques vidéos avec France 3 qui vient filmer une fois par semaine des recettes dans ma cuisine. Et pourquoi pas développer, là je suis en train de travailler sur un nouveau projet qui serait de convier ma communauté à des moments de cuisine ensemble via une plateforme qui comme Zoom ou Teams qui permet de
cuisiner ensemble mais à distance.
Voilà, pour vraiment instaurer des moments de partage, de convivialité, à transmettre mes petites astuces et parfois le frein qu'on a à se mettre en cuisine. Peut-être que vous, ça pourrait être la solution pour vous dire, bah là, je suis accompagnée, je suis pas
oui,
seule avec mes ustensiles. Et puis, à la fin de ce moment de cuisine, le repas est prêt pour le soir, par exemple.
Non, mais c'est vrai que c'est une super bonne idée. C'est un rendez-vous. On va cuisiner ensemble,
voilà,
quoi.
Un rendez-vous convivial et gourmand.
Bon, et puis après, dans la cuisine, le problème, c'est qu'il faut avoir tous les ustensiles. Hein. C'est compliqué, la cuisine.
Ben c'est vrai qu'il faut un minimum. Après, on a toujours des parades. Si on n'a pas d'emporte-pièce, les bords d'un verre vont faire l'affaire. Enfin, il y a toujours des petites astuces. Ouais, j'essaye de proposer des alternatives.
Ouais.
Après, c'est vrai que si on a besoin d'un mixeur et qu'il n'y a pas de mixeur, ça va être un peu plus compliqué.
c'est clair.
Voilà, j'ai pas trouvé d'alternative pour l'instant.
Donc, vous faites un petit trousseau pour les débutants?
En tout cas, pour ces moments de cuisine en ligne, j'ai prévu, bien évidemment, d'aiguiller, de créer ces rendez-vous suffisamment en amont et puis de donner la liste exacte de tout ce dont on aura besoin, de tout le matériel.
Pour faire sa rentrée.
Voilà, pour que le moment venu, ce soit juste du bonheur, du partage et pas le stress de mince. Ben non, il me manque tel matériel.
Ah, mais c'est une excellente idée, je trouve ça. Vraiment.
Non, je te l'approprie.
Bon, ok, je vais m'inscrire.
C'est vrai.
Vous me direz quand
c'est.
Je vais peut-être progresser en cuisine, hein, qui sait.
Ah bah, qui sait. Alors, dans ce cas, vous me ferez des recommandations.
Ah bah, évidemment. Et pour les entreprises, c'est souvent qui vous contactent pour faire. C'est quoi alors? C'est des incentives, des choses comme ça.
Pour les entreprises, par exemple, lors d'événements, je me déplace avec ma plaque de cuisson, mes petites préparations.
Ah, et vous cuisinez en live alors?
Je cuisine en direct.
Pour eux.
Pour eux. Et c'est des moments très sympas.
Eux apprennent à faire la cuisine à ce moment-là ou alors ils dégustent?
Non, ça dépend des prestations.
Ça dépend
des prestations. Il y a des prestas où c'est plus un atelier culinaire avec. En entreprise, j'aime bien proposer un atelier un peu en mode top chef où on va avoir des défis à relever, créer des équipes qui vont être en concurrence. Ça donne lieu à des moments vraiment d'échanges, de stimulation. Et c'est drôle, souvent les
gens. Et là,
les
vous faites ça toute seule ou bien vous êtes accompagnée par d'autres, éventuellement d'autres cuisiniers?
Non, non, en général, je fais ça toute seule. Parfois, j'ai un extra ou quelqu'un qui vient m'aider pour tout l'aspect logistique parce que quand il faut transporter tout le matériel, et oui. Tout, c'est quand même, ouais, je déménage, ouais, ma cuisine à chaque fois.
Ouais. Ouais, c'est chouette. Ben, je mettrai les informations sur les notes du podcast pour qu'on puisse vous retrouver,
avec
vous
plaisir,
contacter et puis s'inscrire à ces Zooms. Ça s'appelle comment?
J'ai pas encore donné de nom, hein. je suis en pleine phosphore dessus là.
Dès qu'on saura, pour l'instant. S'il y avait une musique pour terminer, pour nous donner l'envie de cuisiner.
Allez, mais moi je suis fan de Queen et Bohemian Rhapsody. Elle est très longue cette chanson,
ça,
mais
génial,
elle est
génial.
Tellement pleine d'étoffes, de textures. Comme en cuisine, comme un plat qui se déguste et on découvre plein de nouvelles saveurs au fur et à mesure.
Ça, c'est magnifique.
Peut-être cette chanson-là.
Alors, juste encore une dernière question, puisque ce podcast s'appelle Le Podium. Vous êtes en haut du podium aujourd'hui. Qui aimeriez-vous faire monter avec vous sur votre podium?
Alors, j'ai très envie d'inviter Manuela Gross, alias Antoinette de Knackwiller, qui est un personnage truculent. C'est une amie et quelqu'un qui fait tellement de bien, qui fait du spectacle et qui raconte l'Alsace aussi à sa manière, avec beaucoup d'humour, de bienveillance. Voilà, elle devrait être remboursée par la Sécu, cette fille-là, tellement elle fait du bien et je l'adore.
Eh bien, très bien. Merci beaucoup en tous les cas. Et
merci,
puis, on
Caroline.
Sent que vous avez l'Alsace à cœur en plus de la cuisine. Hein.
C'est vrai.
Merci, Leïla.
À bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Slide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Doesn't really matter to me, Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on. Is there nothing really matters?
Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils. Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences. En musique et en anecdotes, un podcast à emporter partout.